I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mets un casque. Mais sinon, t'entends pas quand tu parles à côté du micro. Je sais que tu parles à côté du micro.
Je parle toujours à côté du micro.
Je sais.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine encore monte à la chaire pour se colter avec l'une des sorties du moment, en l'occurrence avec Brimstone, western slash thriller tout frais sorti sur les écrans français, porté par une réputation grimpante dont on va voir si elle est méritée, en tout cas si le fier trio de cow-boys ici présent souscrit à l'enthousiasme qui ressort des premiers échos autour du film. Ces guerriers héros de l'Ouest sauvage, ce sont Léa Baudin, salut Léa.
Salut Thomas.
Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 78, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Brimstone, donc, nous raconte l'histoire de Liz, alias Dakota Fanning, qui mène une vie des plus normales dans l'Amérique de la fin du 19e siècle avec son mari, Samuel, joué par Kit Harington, le Jon Snow de Game of Thrones, et leurs enfants, une vie normale donc à ceci près que Liz est muette et communique grâce à la langue des signes. Mais cette apparente quiétude va voler en éclats lorsque débarque en ville le nouveau révérend de la paroisse, le terrifiant Guy Pearce, dont l'arrivée va soudain raviver le passé trouble de Liz qui va devoir batailler sévère pour s'en sortir.
Never leave your loved ones alone. You should know that by now.
Le tout se fait sous la caméra d'un réalisateur hollandais, Martin Koolhoven, qui signe aussi le scénario qui a puisé une partie de l'inspiration pour son film dans le folklore religieux protestant des Pays-Bas, d'où sont partis bon nombre d'immigrés vers les États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle. Ce Brimstone, mes amis, qu'en avez-vous pensé? Tiens, qui va commencer? Yannick, pour fêter ton retour parmi nous. C'est toi qui ouvre le bal.
Qu'est-ce que j'ai pensé de Brimstone? Alors, je pense que je vais plus rebondir aussi par rapport à ce qu'il dit.
Parce
que
moi,
je suis très... Non, c'est pas ça. C'est que je suis assez mitigé. C'est typiquement le genre de film où, dès que ça commence, t'es complètement happé dedans, je trouve. C'est visuellement assez magnifique. Une incroyable lumière, il y a des super acteurs, il y a des très beaux décors, il y a une espèce d'atmosphère qui assume ses codes du genre, hein, la première introduction de Guy Pearce avec cette espèce de mouvement de caméra qui descend comme ça et qui l'iconise immédiatement alors qu'il est en train de faire un sermon assez badass et tout ça. C'est quelque chose qui est ma cam, donc forcément, je rentre là-dedans avec une envie d'y croire immédiate. Mais en même temps, immédiatement, il y a ces éléments-là. Et il y a une espèce de... Alors, j'ai pas le terme, mais quelque chose qui veut apposer du sérieux à l'entreprise. Pas du sérieux dans le sens « je traite mon sujet sérieusement », je veux apporter comme une forme de sérieux symbolique. C'est-à-dire que moi, ce qui me perturbe, c'est d'avoir...
Du sens, quoi.
Du sens où j'en ai pas trouvé des masses. Mais bon, fondamentalement, quand t'as un film où t'as une espèce d'iconisation de personnage comme ça, et puis immédiatement, avant ou après, t'as un chapitrage du récit qui te met rétribution et que tu vas comprendre très vite qu'il va y avoir Genèse, Exode, donc on est tout de suite dans une espèce de qualification du film avec des termes religieux. Moi, ce côté-là, entre j'assume le genre, je kiffe, je vais même limite faire des trucs de sale gosse à certains moments, sont déstabilisants. Hein, ça crée des ruptures de temps qui sont intéressantes. C'est un peu déstabilisant au bout d'un moment. Alors, on fait vite fait la logique du récit. C'est quand même un film qui est divisé en quatre parties et qui est une narration éclatée, puisqu'on part d'une situation, puis on découvre ce qui s'est passé avant, pour finalement, au dernier chapitre, voir la suite de ce qu'on avait amorcé au début. C'est hyper intéressant, sur un sujet qui est clairement, même s'il brasse des thèmes religieux, la question de l'émancipation de la femme à travers ce récit-là. Et puis on voit cette femme qui essaye de s'enfuir, poursuivie par ce Guy Pearce, et évidemment on se pose la question de qu'est-ce qu'il a fait qu'elle en arrive là. Moi, je suis emmerdé sur le film pour deux choses. Une qui n'est pas hyper gênante et qui est peut-être propre au fait que j'ai bouffé trop de films comme Stéphane, je ne sais pas, mais début du chapitre 2, passer 5 minutes à se dire « Attends, c'est quoi cette situation ?» Parce que moi, j'y suis allé vraiment vierge de tout. Oui. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et du coup, j'étais là. Ah, et puis alors, il me faut 5 minutes pour comprendre que tout de suite, on est sur un flashback. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été hyper emmerdant pour moi parce qu'il me restait 2 heures de film où je voyais presque tout arriver jusqu'à très rapidement, dès la moitié du chapitre 2, me dire bon, mais je comprends la connexion entre Guy Pearce et cette nana, où je la devine parce que les éléments qui la mettent en place me permettent finalement de la deviner. Et du coup, quand les révélations arrivent, je suis là, ah, c'est exactement ce que j'avais deviné. Non pas que je sois un génie, mais je trouve que au final, comme malgré le fait qu'il brasse beaucoup de thèmes, beaucoup de personnages qui sont tous intéressants, j'insiste, le film a plein de qualités à des moments différents. Je trouve qu'il y a des séquences assez géniales et tout. Malgré tout, je le trouve extrêmement prévisible et dans sa conclusion et dans sa résolution. Donc, on n'est plus dans l'attente de savoir des révélations ou comment ça va se conclure, mais de quelle manière ça va le faire. Et je trouve que le final est assez déceptif à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ça qui m'emmerde le plus. Parce que ça, OK, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas que le film est bien réalisé, bien joué, bien foutu, que c'est intéressant à regarder. Là où c'est plus emmerdant pour moi, c'est, alors ça, c'est plus un niveau de ressenti. Je sais que Stéphane ne l'a pas du tout ressenti de la même manière, comme quoi, bon, voilà. Une fois qu'il a posé ce postulat, évidemment, on est dans une sorte de logique de, alors, quête d'émancipation de la femme. D'un point de vue du genre, on va être dans une sorte, pas de survival, mais de revenge movie, presque, avec un personnage qui en prend plein la gueule. Donc, évidemment, on attend qu'il se rebelle, on attend tout le film qu'il se rebelle. Donc j'accepte le plein la gueule. Sauf que là, c'est plein la gueule. Si tu veux, c'est, ça commence, et puis on humilie la femme, puis on va violer la femme, et puis on va frapper la femme, et puis il y en a 3 autres qui arrivent, et on va les violer, les humilier, leur couper ça, leur truc.
Heureusement que Yannick a précisé que j'avais aucun problème avec ça, parce que j'ai encore passé
pour... C'est pas ça, non, parce que... Je veux dire,
Stéphane, ça le gêne.
Je veux dire, c'est que toi, tu m'as clairement dit, t'es resté happé jusqu'au bout. Donc il y avait une espèce de voilà. Tu vois, je te laisserai le justifier.
Tout à fait.
Après, moi, là où je me dis forcément, bah il y a un problème quelque part. C'est que combien même je le trouve un peu prévisible, c'est pas grave. Je suis à fond dedans et je suis là en train de dire ah ouais c'est couillu la scène. Ah ouais. Et puis la suivante. Ah ouais. Mais quand t'arrives à un moment donné où il en a fait 10 fois comme ça, où je me dis bon d'accord. Ce qui me pose problème en fait, c'est que au bout d'un moment, j'avais l'impression que les seuls éléments discursifs, voire disruptifs, dans le film, étaient uniquement traités via l'ultraviolence, qui ne pouvaient pas le traiter d'une autre manière. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben moi, ça me sort du film. C'est-à-dire quand j'en suis à la 15e scène d'humiliation sur tous les personnages féminins, combien même ils sont intéressants, combien même ils ont des parcours, combien même il y a des petites révélations qui sont chouettes, qu'on n'anticipe pas forcément, et qu'il y a la volonté de traduire très clairement le condensé des affres subies par les femmes à travers l'histoire de l'humanité en 2 heures, faut quand même se le taper. Parce que le problème, moi, c'est que j'arrive au bout d'un moment où je me marre, je suis en train de dire, bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va la lapider, bingo, il va faire ça. Mais je te promets, il y a des moments où j'étais en train de dire, ah, attends, on n'a pas eu encore l'infanticide, on n'a pas eu ça, et voilà, la scène d'après. Et donc, au bout d'un moment, ça me déréalise le truc, c'est-à-dire, ça me déréalise l'intention du bonhomme. Alors, qui plus est, ça me déréalise parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il n'a pas su s'arrêter. Donc, c'est dans une redondance perpétuelle et puis surtout toujours sur le même thème, quelque part. Et comme il ne peut pas s'empêcher à un moment donné de dire « Attends, je suis dans un film sérieux, mais alors, je vais faire quand même un petit truc bien trashos, bien gonzo. » Et voilà, moi, je ne savais plus. Et au bout d'un moment, je suis complètement sorti du film pour toutes ces raisons-là, parce que trop, au bout d'un moment, il faut arriver à jauger quand même ta rythmique et ta structure pour qu'elle ait un impact, parce que l'effet recherché, il est quand même effectivement de complètement te mettre de ce point de vue de ces nanas-là, et évidemment de susciter l'envie que si rébellion il y a, elle soit méchamment vénère au final.
À la hauteur du châtiment
subi. Et au final, sans rentrer dans les détails, pour pas spoiler à tout le monde, il n'assume pas vraiment ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire, mec? C'est ça qu'au bout d'un moment, je crois. Soit tu veux me faire un film Marty qui va me questionner la religion, la quête d'émancipation de la femme, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'un peu plus de biscuits que systématiquement l'humiliation, la cruauté, la violence pour traduire une quelconque évolution du récit, ou thématique même, et ça je ne l'ai pas. Et à côté de ça, t'assumes pas ton côté gonzo. Alors, et dans ce cas-là, je me marre pas et je suis pas dans un délire de genre profondément vénère. Et, tu vois, donc voilà, j'étais le cul entre deux chaises et je suis resté un peu comme ça, à tel point que j'en suis arrivé à me dire c'est peut-être finalement plus petit malin que ce que j'avais présupposé au départ du film, et que plus je réfléchis à ce film, moins il me suscite de la sympathie. Mais bon, à côté de ça, il a plein de qualités, je le répète. Voilà, pour l'instant, je dis ça.
Léa.
Moi, je dirais pas que c'est petit malin. Au contraire, je dirais qu'il est dans l'erreur, en fait, parce que... moi, je suis totalement d'accord sur les personnages. Moi, je trouve que les personnages sont très intéressants. Le parti pris de départ, de se dire on va aller voir un western féminin, c'est chouette, ça fait plaisir, quoi. Et la photo est très belle, je vais pas revenir là-dessus parce que je suis totalement d'accord sur les qualités du film. Et moi, ce qui me dérange, il y a vraiment les choix qu'il fait quant au traitement de la violence. Parce que il va soit pas assez loin, soit trop loin, et en général, c'est pas au bon moment. Il y a eu une séquence dans le premier quart du film, parce que donc c'est découpé en quatre parties, où le mari qui, donc, pour te corriger, ce n'est pas du tout joué par Kit Harington.
Ouais, en fait.
J'ai écrit n'importe quoi.
C'est Kit Harington intervient dans la troisième partie.
Kit Harington, c'est Samuel, c'est ça.
Mais c'est
pas grave.
J'ai
écrit ça très vite avant l'émission.
Et donc le mari se fait tuer, et donc on est dans une scène qui est très très gore. Et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace dans les séquences où la violence est soit en hors-champ ou soit montrée avec un peu plus de pincettes. Parce que là, on est... En plus, la séquence dure très longtemps. Enfin, c'est une scène qui... Il lui demande de la tuer. Hein, ça dure. On se dit, waouh, c'est un peu lourdingue. J'ai eu le même problème sur la fin du film. Alors moi, en fait, j'enlèverais carrément toute la quatrième partie, toute la dernière partie, parce que je trouve que justement, les thèmes qu'il aborde, et notamment la critique de la religion, qui est quand même... il y va pas avec le dos de la cuillère, et c'est pas toujours très subtil, mais je trouve ça assez, assez intéressant. Je trouve que c'est quelque chose qu'il assume. Et du coup, jusqu'au terme de la troisième partie, je trouve que c'est plutôt bien traité. Et Guy Pearce est absolument terrifiant pendant tout le film. Sincèrement, j'étais complètement soufflée par sa prestation. Et je trouve que il aurait vraiment dû. Enfin, c'est l'histoire du mec qui n'arrive pas à terminer son film. Et pour moi, le film aurait vraiment gagné. Enfin, il aurait vraiment servi la force de son propos à arrêter son film à la fin de la troisième partie, qui est, je crois, la Genèse. Et
là, tu termines pas l'histoire.
Bah, pour moi, si justement.
Bah, tu racontes le début.
Bah, pour moi, ce moment où elle part dans le champ en courant, c'est une image magnifique. Et pour moi, c'est... Enfin, on sait ce qui va se passer
d'accord,
après.
D'accord, mais le truc, c'est que t'es censé terminer ce qui se passe à la fin de la première partie. La fin de la première partie, t'es resté en suspens.
Le truc, c'est qu'on ne
le sait pas forcément. Il y a quand même une résolution à avoir.
Est-ce que t'es surpris dans la quatrième partie ?
C'est pas une question d'être surpris, en fait. C'est une question de satisfaction pour le spectateur, un minimum. Enfin, tu vois, je veux dire, là, Yannick, le problème qu'il avait, et pour le coup, je suis d'accord avec vous sur ce point spécifique, et je vais y revenir. Je suis pas entièrement. J'ai beaucoup aimé le film, je suis allé le voir comme Yannick, j'attendais absolument rien. Je vais même vous dire, j'ai vu que ça durait 2h30, je me suis dit, ouh putain, je vais me faire chier. Et pas du tout, en fait. Et là, ça, c'est un des trucs qu'il faut, moi, je trouve, accorder au film, c'est que pour un film c'est un film à 12 millions d'euros, quelque chose comme ça, une prod assez compliquée à mettre en place, ça a failli péter à la dernière minute. Donc le mec a tenu le truc, il a tenu son film jusqu'au bout, pour la qualité dont on parle depuis tout à l'heure, en termes en tout cas cinématographiques purs. Voilà. Et le truc, c'est que oui, je suis d'accord avec vous sur le manque de satisfaction de la fin. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, là, on a le problème, en fait, je trouve, c'est qu'on est arrivé en sachant absolument rien sur le film. Et malheureusement, les gens qui sont ici, ben, on leur a un peu, défloré la façon de faire, en fait, le film et la façon de fonctionner.
La mécanique, quand même, assez.
Oui, mais la mécanique, en fait, moi, ce que je trouve bien dans la mécanique, c'est pas de comprendre la mécanique, c'est de voir comment la mécanique, elle est exploitée et utilisée. C'est-à-dire que j'ai pas vu un grand film sérieux. J'ai pas vu un film Gonzo. J'ai juste vu l'histoire d'un mec qui est impliqué dans ses personnages, qui les pousse à terme, et j'ai fonctionné d'un point de vue purement émotionnel. C'est-à-dire que même si je peux effectivement a posteriori me dire ah ça on le voit venir, ah ça on le voit machin, etc., etc., il y a l'aspect complètement ludique en fait qui fonctionne, qui est pour moi que à chaque c'est-à-dire que Yannick parlait de toutes les 10 minutes il va avoir une scène de torture, de violence, de machin. Moi je suis pas d'accord. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand t'en parles, j'ai l'impression que tu parles du martyr de Pascal Laugier, non, tu vois, et ce genre de grosses conneries. Et voilà, et tout de suite les gros mots. Ouais. Et voilà, donc le truc, c'est que, et qui se veut aussi, parce que c'est pas un western uniquement féminin, c'est un western féministe. Hein. C'est,
ah oui,
ça, c'est clairement assumé
absolument.
Dans le film. Et
mais
c'est...
quand on va le voir, on sait qu'on va, on ne sait pas qu'on va voir un western.
Tout à fait,
féministe.
Voilà. Et moi, je pense que le vrai souci de la fin du film, il est lié à cette logique. Pas le reste du film, dans l'absolu, pas ce que le mec raconte, mais vraiment la façon dont il va pas justement jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que l'aspect violent dont tu parlais, Annie, que tu voulais à la fin, c'est que en fait, t'as une espèce de logique où, au final, c'est même pas une question de religion, c'est même pas une question de voilà, c'est une question de les femmes sont au-dessus des hommes dans la logique des choses parce qu'elles ne peuvent pas s'abaisser à être une bête comme l'est par exemple le personnage du révérend au bout d'un moment. Et du coup, en fait, cet aspect complètement cathartique que t'attends à la fin n'est pas là. T'as un truc au tout début, en fait, t'as un tout petit truc au tout début qui est mis en place où tu sais déjà que ça va revenir à la fin. C'est quand le gamin prend le flingue, commence à tirer et qu'elle vient et qu'elle dit je veux pas qu'il utilise l'arme. Donc en gros, t'as compris que non seulement elle ne veut pas qu'il utilise l'arme, mais elle ne veut pas elle-même utiliser l'arme. Et t'as tout cette espèce de truc qui est construit. C'est pas finaux, hein. Je dis pas le contraire. Et malheureusement, en fait, bon voilà, je vais pas aller jusqu'au bout, mais le truc c'est que voilà, quand la logique revient à la fin, ça aurait dû être effectivement quelque chose de beaucoup plus bestial, beaucoup plus animal, et surtout avec un personnage muet qui, moi je trouve très bien joué par Dakota Fanning et tout, et en plus c'est des personnages un peu rares à voir au cinéma, et c'est bien d'avoir un personnage qui fonctionne comme ça, et c'est pareil. Le truc c'est que j'aurais aimé, en fait, si tu veux, qu'il arrive, enfin, voilà, ça c'est mon souhait de spectateur peut-être, mais c'est le manque que j'ai eu, une vraie extériorisation, en fait, du moment jusqu'au bout où le personnage l'a poussé, en fait. Et au contraire, c'est, je trouve, très, pour le coup, mécaniquement traité. Maintenant, voilà, je suis quand même, de nous trois, je suis quand même la personne qui a le plus aimé le film, et parce que justement, je trouve que c'est un film ludique dans sa construction et dans sa façon de présenter les choses. C'est-à-dire que, quand le chapitre 2 commence, par exemple, on voit une jeune fille passer, on se dit, tiens, mais c'est la jeune fille de Dakota Fanning. Ah non. Et du coup, il joue avec beaucoup de petits trucs comme ça, c'est-à-dire que le nom du personnage de Dakota Fanning, t'apprends son origine dans le troisième chapitre, etc., 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 ou dans le deuxième, je sais plus. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça où t'as une information supplémentaire à chaque fois, qui, je trouve, un vrai... c'est-à-dire que... Parce que on le sait maintenant, on a vu pas mal de films raconter le récit de manière déstructurée. C'est quand même quelque chose de difficile à faire sans perdre personne, en fait. Mine de rien, et t'as plein de films à la con qui sont faits. Enfin, j'ai pas d'exemple parce que c'est des films à la con, mais évidemment, là, maintenant que j'en parle, et t'as plein de films à la con où en général, si tu veux, quand les mecs font des films de petits malins comme ça, tu te perds et tu comprends plus rien. OK? Et le truc, c'est que là, tu suis tout sans problème, et même t'as une petite. C'est pas une grande révélation, c'est pas un twist, c'est pas tout ça, c'est juste une petite. Ah, c'est de là dont vient le prénom. Ah, c'est de là, c'est cette fille.
Ça, ah, ça
c'est
fonctionne de lui. Jusqu'au chapitre 3 pour
et
moi.
Et... Voilà, mais le chapitre 4, c'est la conclusion du truc. Et voilà.
C'est raté.
Bon, mais le truc c'est que je le trouve moins je le trouve plus raté sur des problématiques thématiques en vrai que parce que t'as l'impression qu'il va pas, qu'effectivement la raison pour laquelle il va pas jusqu'au bout, c'est que sa logique c'est de dire les femmes ne peuvent pas avoir un espèce de retour à cette bestialité. C'est ça mon problème. Oui. Mais le truc en tout cas c'est que voilà, tout cet aspect-là fonctionne, moi je trouvais bien. En plus après moi je suis un fan de western, donc le problème c'est, enfin je veux dire, le truc c'est que forcément j'y suis allé pour cette raison aussi à la base, c'est plutôt cool d'avoir un mec qui essaye de... moi je compare ça un peu à du Tarantino premier degré, en fait, c'est-à-dire que en gros c'est pas un mec qui va faire de la comment dire, il y a pas d'humour dans le film, c'est très sec, très sérieux effectivement, alors que bon, même dans des moi j'adore les 8 salopards ou Django, mais il y a clairement des scènes over the top qui sont faites et qui moi je trouve sont très bien faites, en fait, et bourrées d'humour. T'as pas de truc comme ça, t'as pas de perso. Pour autant, t'as des persos moi je trouve vraiment bien écrits, vraiment attachants. Kit Harington, voilà, enfin, de toute façon, tu peux pas. Tu sens que c'est un mec qui a été mis là, en fait, un acteur qui a été mis là parce qu'ils avaient besoin d'un nom à l'international
le
pour
pouvoir. Le fait qu'Aix en Texan, c'est un petit peu violent. Ouais.
Non, mais enfin voilà, après, tout le monde va voir le film, tout le monde doit savoir que c'est le mec de Game of Thrones, tu vois, c'est Jon Snow, donc voilà. Mais moi, je trouve que voilà, il tient super bien son récit. Là, j'ai les images qui diffusent derrière, là, ce que les gens ne peuvent pas voir quand ils nous écoutent, mais voilà. Et en revoyant les images du film, je dis putain, mais c'est vrai, c'est beau, quoi. Tu vois, c'est ça a de la gueule. C'est voilà. Donc, je trouve que peut-être que c'est un film de petit malin, peut-être que c'est, enfin, peut-être tout ça. Mais en même temps, je trouve que moi, enfin, émotionnellement, purement émotionnellement, ça fonctionne super bien.
C'est pour ça que je disais moi au début que c'est vraiment une question de ressenti. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est que je pense structurellement, je comprends ce que tu dis. Et je suis d'accord qu'à partir du moment où une narration éclatée, tout l'intérêt de travailler sur le type d'information que tu vas véhiculer, tout ça, très bien.
Pour des fois, tout simplement.
Bien sûr,
hein.
Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En l'occurrence ici, je trouve le cœur du récit est thématique et narratif est trop creux pour autoriser quelque chose de ludique. Moi, j'appelle pas ça ludique. Alors, on peut appeler ça ludique si on veut ou pas, mais moi, j'appelle pas ça ludique à partir du moment où je sors du film parce que je suis systématiquement en train de me dire bon, alors ok, j'ai vu le mec, il a la cicatrice comme ça. Je te parie que ça va être la meuf qui lui a donné un coup de couteau. Ah non, c'est pas la meuf.
Il
y a pas que ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Je reconnais les qualités du film aussi. Je trouve que la problématique structurelle, qui n'est pas génialement géré, tout en n'étant pas catastrophique non plus, preuve en est, une personne peut tout à fait être happée dans le truc et trouver émotionnellement quelque chose qui fonctionne. Moi, j'en suis sorti et je l'ai dit dès le départ, c'est moi, c'est peut-être, voilà, j'ai anticipé la fin, je l'ai vu arriver gros comme une maison. Je trouve que ça, mais pour moi, hein, plus thématiquement, un film que je ne trouve pas subtil, que je trouve qui ne s'assume pas, c'est pas que j'attendais de la violence, c'est que le film me prépare à ça. Il aurait choisi un parti pris beaucoup plus arty, je me balade dans les champs et je touche le blé, à la limite, ça m'aurait pas gêné qu'elle parte en courant dans les bois, je m'en fous, mais vu ce qui me met en place comme accumulation d'ultra-violence sur toutes les namas, et pas que le personnage principal.
Ouais, ça me pose un problème à un moment donné.
À la fin, j'ai besoin que
c'est ça. Sur la séquence, enfin, moi, les violences sur les femmes, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé, parce que je pense que c'est absolument indispensable.
C'est une seule fleur bleue, en fait.
Non, mais je pense que c'est indispensable, c'est ce qu'il veut raconter aussi. Donc, son personnage, il est obligé de subir tout ça. Mais là où il y a un basculement, c'est justement à la fin de la troisième partie, quand il y a tout le passage sur la mer, sur le personnage de Carice Van Houten, qui est là. Enfin, là, on bascule dans quelque chose que moi, j'arrive plus à suivre et je comprends pas la nécessité de ce truc.
Ouais, je pense que le problème de ce moment-là, en particulier, peut-être, c'est que c'est un pur truc intimiste, alors que le reste du film ne fonctionne pas forcément comme ça, en fait. C'est-à-dire que tout le reste du film, il est vraiment structuré et intégré dans les logiques de western. C'est-à-dire que t'as des éléments de western pur, t'as la petite ville, t'as la chapelle, t'as le révérend qui arrive dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, t'as le bordel, t'as tous ces trucs-là, t'as un duel carrément, en fait, t'as un duel, pour le coup, tu pourrais le couper, ça servirait quasiment à rien, mais il s'est dit, je vais faire un duel, je fais un western, merde. Donc voilà. Et le truc, c'est que bon, très bien. Et le truc, c'est que je pense que cette troisième partie-là, c'est comme si c'est une partie qui est purement intimiste et qui est vraiment dans le cadre du truc. Là, on traite, à mon avis, vraiment le cœur du sujet. Et effectivement, je pense que c'est là où ça passe ou ça casse si tu trouves que c'est grossier, quoi, tu vois.
Non, mais le truc, moi, je trouve pas particulièrement. Il est logique par rapport à son idée. Le troisième chapitre, ça s'appelle Genèse.
Oui.
Le troisième chapitre, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles cette nana va lui arriver tout ça. Donc, telle mère, telle fille. Donc, si tu veux, on se tape.
Justement.
Donc, la problématique de là-dessus, c'est qu'hormis cette notion, parce que c'est le moment du récit qui, quand même, te dit, gros comme une maison, et c'est pas de la grande thématique, te dit, toutes les femmes ont subi ça pendant 2000 ans.
Sauf tu vois, ce qu'elle raconte aussi, c'est que face à l'adversité, deux femmes vont réagir de manière totalement différente.
Certes, mais l'idée. C'est le cas particulier.
Et on peut effectivement se concentrer sur. Parce que c'est une histoire. Là, pour le coup, ce chapitre, c'est trois persos.
Oui.
On peut aussi se concentrer ça et pas forcément se dire que c'est exactement ce que le mec dit, que ça fait 2000 ans que les femmes.
Non, mais tu le ressens comme ça. Moi, c'est pas le problème de la violence envers la femme. Bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais à partir du moment où c'est le principe du récit, moi j'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, moi, simplement, c'est qu'à partir du moment où je comprends un principe, si tu ne fais que le répéter ad nauseam, sans y apporter un élément ou thématique de plus, moi je suis juste là, mec, je l'ai compris depuis le chapitre 2. Donc tu peux me faire un troisième chapitre d'ultra-violence, tu m'apportes rien de plus. Ça devient une affaîtrie thématique. Le fait qu'on m'amène la mer et que, je déplace la problématique sur la mer et je vais te montrer que la mer, allez, alors la castre, la triquette, tac, 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 j'ai compris. Mais c'est quoi ton propos au-delà de ça? Parce qu'au final, c'est quoi? Au final, c'est une meuf qui s'en va, qui est la pauvre victime, elle va se révéler, et puis, j'ai le méchant fanatique religieux qui la poursuit. Je suis désolé, ça brasse beaucoup de choses, mais au final, c'est creux. C'est ce que je disais au début quand je te dis, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de discursif, de disruptif, au-delà de la violence subie par les femmes dans ce film et d'un schéma qui, il a beau se la jouer, narration éclatée, tout ce que tu veux, tu l'aurais compris en 20 minutes.
Encore une fois, c'est creux si effectivement tu rentres pas dans à la fois la logique du récit et deux, la logique émotionnelle des personnages. Parce que le truc, c'est que
le fait que je dise que c'est du ressenti et que je n'impose pas mon point de vue.
En fait, on vous refait la conversation qu'on a eue.
Non, mais c'est pas ça, je parle. C'est pour ce que j'ai dit. J'ai dit, je pense que moi, de mon point de vue, je peux avoir analytiquement un souci structurel avec le récit. C'est le seul truc où on mérite de discuter. Après, j'évoque mon ressenti, mais c'est mon ressenti. Peut-être la moitié des gens ici vont dire, putain, c'est génial! J'ai adoré, j'ai été impliqué émotionnellement. Bon, voilà, moi, j'ai pas été, donc je suis là pour dire ce que j'en pense.
Le film n'est pas du tout subtil et où, justement, il y a quelque chose. Enfin, pour moi, ce qui apporte toute la subtilité dans le film, c'est vraiment l'interprétation des acteurs. Parce que le personnage de Guy Pearce, comme le personnage de Dakota Fanning, sont des personnages qui sont très faciles à interpréter de manière caricaturale. C'est quand même des personnages qui sont quand même. Dessiné au, au, au crayon gras et où il est très facile, je pense, de tomber dans quelque chose de facilement un peu grotesque. Et là, je pense que c'est ce qui fait aussi la force du film, c'est que les acteurs fonctionnent très bien l'un avec l'autre et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'interprétation. Mais,
Est-ce que je fais le connard ou pas? Si je fais le connard,
si tu me demandes, je
vous trouve extrêmement gentil avec Dakota Fanning, autant j'aime bien Guy Pearce, qui en fait un peu des caisses quand même, mais Dakota Fanning, alors je veux bien qu'elle soit muette, mais putain, elle est quand même, elle a toujours la même expression. Il y a des moments où tu fais pas la différence entre on va me puter mon gosse ou on me flageller et je suis poursuivi dans les bois et c'est toujours bon. Alors parce qu'elle est muette évidemment, du coup elle peut rien dire, elle peut pas crier évidemment, donc elle fait les gros yeux, elle est là comme ça. Bon, c'est pas ce que j'appelle le summum de l'interprétation, mais peut-être suis-je un connard.
Peut-être. Peut-être.
En fait, donc je me permets d'émettre en doute sur l'enthousiasme sur Dakota Fanning, mais voilà. Mais non, mais attends, ça n'enlève pas
tu
le fait.
Tu sais quoi,
que...
tu te dis pas de mal de quelqu'un qui a joué dans Man on Fire. Et c'est tout.
Mais il faut lui rendre justice, la pauvre, elle s'est fait piquer la vedette par sa sœur.
C'est vrai,
terrible ce qui lui arrive.
C'est vrai que sa sœur lui a un peu tout.
Ouais, Yannick qui débarque.
Non, mais Yannick qui sait pas qui c'est, et le Fanning. T'expliquera après. Pour terminer, on va prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations. On peut rester dans l'univers du western. Alors oui, il y a des recommandations, Yannick. Je sais que t'es pas venu depuis longtemps, mais tu as peut-être oublié. On peut rester dans l'univers du western, bien sûr, mais comme toujours, vous n'avez aucune obligation. C'est Stéphane qui commence.
Alors, western quand même, ouais. Neige, personnage muet.
Ouais.
C'est apparemment une référence du réalisateur, c'est Le Grand Silence de Corbucci. Ouais. Voilà, donc qui est un western assez âpre.
Alors, avec Trintignant.
Trintignant et Kloskinski. Ouais. Et voilà, donc c'est trouvable en DVD. Alors, enfin, je dis c'est trouvable en DVD,
si,
mais c'est.
Ça existe en DVD. Bah,
c'est sorti en DVD, mais c'était sorti dans la collection de l'inestimable Jean-Pierre Dionnet. Ouais. Et qui moi c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas à l'époque j'ai découvert un peu sur le tard et voilà, enfin thème de Morricone incroyable, c'est beaucoup plus ramassé comme récit, hein. C'est un film beaucoup plus court que Brimstone en l'occurrence, oui on peut voir certaines connexions, mais c'est pour le coup c'est une vraie série
On trouvait des connexions d'ailleurs avec Les 8 salopards aussi de Tarantino,
ouais, pas mal Tarantino Corbucci évidemment,
et, oui.
Et voilà, donc à mon avis c'est quand même chiant, hein, à trouver maintenant parce que cette collection là n'existe plus trop, quoi. Mais bon, maintenant, ça reste suffisamment connu pour je pense que ça ressortira quelque part à un moment donné.
Mais bien sûr, on a confiance. Léa.
Moi, je pourrais tomber dans la facilité et recommander La Nuit du Chasseur, mais j'ai décidé de recommander un film avec Dakota Fanning, justement.
Sam, je suis Sam.
Pas du
non.
tout. Non, non, qui est un film très récent qui s'appelle Night Moves. Et dans lequel je l'avais trouvé pareil, très subtil, avec une grande douceur dans l'interprétation, qui est un film indépendant qui a gagné le Grand Prix du Festival de Deauville, je crois, en 2013. Et qui est un film avec Jesse Eisenberg également, sur des activistes qui en fait veulent commettre une manœuvre terroriste qui œuvre pour l'écologie. Et c'est un film qui est très subtil, très doux, et je trouve que ça rend hommage à Dakota Fanning, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'est fait complètement jarter du tableau par sa sœur.
Mais c'est quoi cette histoire-là?
Alors Elle Fanning, on l'a vu cette année dans The Neon Demon, on va la voir dans le prochain film de Sofia Coppola.
Oui.
Elle avait joué dans Somewhere.
Ouais, mais c'est bon, je m'en fous.
Sofia Coppola qui fait un remake des Proies.
Non, mais ça va être une catastrophe.
Et que je suis... Non, qui va être très probablement être une catastrophe, mais qui me rend très curieuse.
Déjà, tu peux absolument pas refaire un remake des Proies.
Non,
c'est un chef-d'œuvre total.
Ça me paraît compliqué, mais.
On fera peut-être une émission.
Non,
on négociera. C'est moi qui décide, Stéphane. Ah bon, Yannick, à toi.
Ah ouais. J'allais penser à des trucs. Là, je suis en train d'oublier avec l'histoire de Fanning, là. Donc. Western, je préfère encore, si c'est un revenge movie, je préfère encore The Salvation. Mm-hmm. Si ça doit traiter du 19e siècle et de la religion, je préfère encore The Witch.
Dont on avait fait une émission, je trouve thématiquement
beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que ne l'est celui-là. Et puis si on parle de Guy Pearce, Lockout pour rigoler un petit peu. Hein, mais voilà. Non, c'est tout. Hein. C'est des... Je sais, c'est des trucs pourris, mais.
Domaine Dumber aussi.
Ouais, ou un truc en rapport, tu vois. On peut continuer là-dessus. Je te sens que t'es bien parti. Je rappelle que Brimstone, hein, c'est à voir en ce moment au cinéma et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Ne pose pas ton casque sur ma feuille, Yannick Dahan. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutent sur iTunes, une petite requête, toujours la même, mais c'est nécessaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et surtout à noter favorablement si possible ce podcast. Soyez certains que nous en savons gré. En attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.